Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Parmi les apports de la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a la fondation de l'histoire. Au cours de ce moment privilégié, c'est-à-dire environ 50 ans au maximum pendant le 5e siècle, l'élan créateur d'Athènes pose les principes de la démocratie, invente la tragédie, la comédie, donne ses statuts réels à la philosophie, entame la rhétorique, développe la médecine et assiste à la naissance de l'histoire. Olivier Picard, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évoque pour nous Hérodote, le père de l'histoire, un des acteurs de cet élan grec de l'invention, de la diffusion et de la transmission du savoir. Alors, Hérodote, précisons ses dates, il est né à Halicarnasse en 484 et il est mort à Thurioi en 420. Olivier Picard, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre venue à Canal Académie. Qui est Hérodote ? Quel genre nouveau du savoir a-t-il initié ? Et il n'y avait donc pas eu d'historien auparavant ? Les annales, les chroniques, les épopées, ce n'était pas de l'histoire ?
Alors effectivement, Hérodote est considéré comme le père de l'histoire et c'est lui-même qui s'est en quelque sorte donné ce titre puisque au début de son œuvre, il présente les résultats de son historia. Mais historia, à ce moment-là, signifie enquête. Et c'est tout aussi bien le procédé de recherche d'un médecin qui s'enquiert des symptômes de la maladie de son patient.
C'est du diagnostic.
C'est une forme de diagnostic. Et effectivement, les Grecs n'ont pas été les premiers à vouloir construire des récits des temps passés. Les grands royaumes du Proche-Orient, l'Égypte des pharaons, Babylone, la Syrie, avaient bien auparavant des clercs, c'est-à-dire des gens qui savaient écrire, c'était à ce moment-là une toute petite minorité, qui notaient. Et on a retrouvé un certain nombre de ces textes sur des tablettes d'argile en Assyrie ou sur les murs des temples, qui notaient les exploits des rois, qui notaient aussi chez les Babyloniens les grands événements de la nature, les inondations, les bonnes récoltes, les mauvaises récoltes, les invasions de sauterelles, etc. Avec d'ailleurs un objectif extrêmement précis qui était d'essayer d'établir une relation entre les phénomènes naturels et les phénomènes historiques pour essayer de prévenir l'avenir. Hérodote est très différent de ses scribes, d'abord parce que c'est un homme indépendant. Il est indépendant de sa cité, qu'il a été obligé de fuir parce qu'il était chassé par le tyran, et il passe la plus grande partie de sa vie soit à voyager, soit à Athènes, soit ailleurs dans le reste du monde grec, mais il n'est pas tributaire d'une cité. Il n'est pas non plus tributaire d'une fonction. Nous savons qu'il a fait des conférences, qu'on peut appeler des conférences, et nous savons que les premières publications de ses récits se sont faits sous cette forme orale. Et nous savons que ces conférences ont été extraordinairement appréciées et qu'il a reçu de grandes récompenses. Mais il n'est pas engagé pour faire un type de travail. Et d'autre part, c'est un homme qui, il n'emploie pas le terme d'objectivité, c'est un mot qui n'existe pas à cette époque-là, mais il souligne que quand il y a discussion, quand il y a problème sur une question, il cherche à présenter des points de vue différents, les points de vue des adversaires, les points de vue d'observateurs, donc des éclairages différents sur un phénomène qui pose problème.
Il a un réel souci d'enquête dans les deux camps.
Alors, il a véritablement, alors là on peut le dire, créé une méthode qui est en effet celle de l'enquête. Le mot « histor », qui a donné « historia », signifie « à l'origine, je sais parce que je me suis renseigné. Et c'est en effet ce qu'Hérodote a fait toute sa vie. Et naturellement, dans, nous ne savons pas comment est né son projet, mais dans les questions qu'il se pose, faisons un anachronisme, c'est un homme qui est né au moment des guerres médiques, Il a assisté à ce que nous appellerions de nos jours la Grande Guerre mondiale de son temps, le grand affrontement entre les Perses et les Grecs. Et naturellement, il est fasciné par cet événement. Et c'est sur cet événement et sur ce résultat tout à fait inattendu qu'il va passer l'essentiel de ses recherches.
Oui, vous pensez que c'est en raison de l'endroit où il est né, de sa terre, qu'il a ce recul qui lui permet de ne pas être inféodé, par exemple, à Athènes ou à Périclès qu'il connaît.
Oh, je pense qu'à l'origine de cette indépendance, il y a d'abord une extraordinaire indépendance d'esprit.
Oui, c'est son intelligence propre.
Une intelligence propre tout à fait remarquable. Curieusement, Hérodote a souvent été présenté comme un naïf parce qu'il est moins systématique que Thucydide, il est moins raisonneur que Thucydide, mais c'est un naïf d'une inventivité, d'une imagination et surtout d'une capacité à s'étonner tout à fait extraordinaire. Et c'est de cette capacité de s'interroger et de s'étonner qu'est née l'histoire. Alors, évidemment, il se situe par rapport au savoir, par rapport à la littérature de son temps, et l'histoire s'explique, bien entendu, en partie par le milieu intellectuel dans lequel elle est née.
Alors, quel est le savoir grec de son temps ?
Comment est-ce qu'effectivement Hérodote a pu être amené à écrire une œuvre aussi originale ? La grande littérature de son temps, c'était l'épopée. C'était l'Iliade, l'Odyssée, c'était les poèmes homériques. Et Hérodote y fait référence dans l'introduction de son histoire. De même que l'épopée chantait les grands exploits de tel ou tel héros, Hérodote nous explique qu'il veut que les merveilleuses ergas, les exploits accomplis de son temps, ne s'effacent pas de la mémoire humaine, qu'ils soient gardés en souvenir. Et il y a un deuxième point de rapprochement plus précis encore. La guerre de Troie, on le sait, était née de l'enlèvement d'Hélène par Paris et du fait que les chefs grecs étaient partis pour reprendre Hélène. Or, Hérodote présente au point de départ de l'histoire du monde des enlèvements de femmes et au deuxième rang, il place l'enlèvement d'Hélène. Et ça n'est certainement pas un hasard. Et d'autre part, nous retrouvons la même structure bipolaire. Il y a d'un côté les Grecs et de l'autre, ce que l'on appelle les barbares, ce qui signifie tout simplement à cette époque-là qu'ils ne parlent pas grec, quel que soit leur degré de civilisation extrêmement développé. Mais en même temps, Hérodote va proposer une création tout à fait différente. Ça n'est peut-être pas le premier écrivain à avoir laissé des écrits en prose, mais c'est la première grande œuvre de la prose grecque que nous ayons.
Parfois, on dit que c'est aussi le père de la prose. Il y a des historiens qui offrent ce titre-là aussi à Hérodote.
C'est en partie justifié. Vous savez, le bourgeois gentilhomme fait valoir, que, ou plutôt on fait valoir au bourgeois gentilhomme que si on ne fait pas de vers, on fait de la prose. Et il est certain que Hérodote a évité le vers épique, ce qui lui a certainement donné beaucoup plus de liberté, ce qui lui a donné un instrument intellectuel beaucoup plus souple. Avec cependant une difficulté majeure, le vers se retient facilement, la prose, il faut absolument qu'elle bénéficie du support de l'écrit et nous aurons à revoir tout le problème que pose l'édition des histoires d'Hérodote. Et puis en même temps, Hérodote est le contemporain des grands sophistes, c'est-à-dire des gens qui s'interrogent sur la causalité des phénomènes, et Hérodote va appliquer cette causalité aux événements de la société. Les dieux existent, bien sûr, et Hérodote ne met absolument pas en doute leur existence. Les oracles jouent un rôle très important, et constamment, les hommes sont présentés dans leur conduite vis-à-vis des dieux. Mais en même temps, Hérodote souligne que l'origine des événements humains, l'origine des guerres, l'origine des révolutions, l'origine des grands mouvements de la société, est à chercher dans les passions humaines, dans l'ambition, dans la cupidité, mais aussi dans l'intelligence. Quelqu'un comme Thémistocle est un homme qui prévoit l'avenir et qui propose à Athènes des décisions, des actions qui vont permettre à Athènes d'être armée au moment où les troupes du grand roi arrivent. Il y a aussi une grande différence entre les Perses, à cet égard, et les Grecs. Pour les Perses, les textes nous le disent très clairement, c'est le grand dieu, c'est Ahura Mazda, qui donne au grand roi les terres qu'il conquiert, les peuples qu'il soumet. À aucun moment, Hérodote ne nous présente la victoire des Grecs, l'échec des Perses, comme une victoire de Zeus ou d'Apollon ou d'Athéna. Les dieux voient ce qui se passe, ils peuvent prévoir bien sûr l'avenir, mais ils ne sont pas les acteurs de l'histoire, ou s'ils le sont, ils le sont uniquement à travers les hommes et à travers les sentiments qu'ils peuvent inspirer aux hommes, c'est-à-dire d'une manière qui est rigoureusement invisible à l'extérieur. Et en même temps, bien sûr, Hérodote est le successeur des grands sages du 7e et du 6e siècle. Il est né en Asie mineure, donc il est très proche des maîtres de Milet, et il a connu leurs enseignements, il va suivre leurs leçons, quitte d'ailleurs quelquefois à les rejeter avec une moquerie assez mordante.
Oui, parce qu'il a plein d'humour.
Il a plein d'humour. Et en même temps, il se heurte à des problèmes très difficiles, à des difficultés considérables, des difficultés d'ordre conceptuel que nous avons peine à imaginer maintenant parce que nous y sommes très habitués. Pour un récit de cette ampleur, il lui fallait créer un cadre géographique et un cadre chronologique qui n'existait pas. Il faut bien prendre conscience que, comme l'ont voulu les historiens les plus contemporains, hein, il y a quelque chose de très moderne dans cette pensée, Hérodote veut faire une histoire globale. Il n'y a pas de partie du monde, sauf celle qu'il ne connaît pas, il n'y a pas de comportements humains qui lui soient étrangers. Et comment construire ce récit dans un cadre intellectuel, logique, qui soit cohérent et compréhensible? Alors, il y avait deux difficultés. D'une part, le temps. Les Grecs, à cet égard, sont d'une très grande pauvreté. La cité date ces années par le nom du magistrat principal ou par les prêtrises d'un prêtre, et eux-mêmes ne remontent dans le temps que peu de temps. Hérodote raconte de façon assez amusante comment Hécatée de Milet, un de ses prédécesseurs, avait cherché à étaler auprès des prêtres égyptiens l'ancienneté de sa famille. Il remontait aux dieux à la 16e génération. Les Égyptiens le ridiculisent immédiatement. Eux-mêmes sont capables de prouver qu'ils ont des ancêtres sur 345 générations. Et d'autre part, les scribes avaient, avec la succession des rois et les années de règne des rois, un cadre chronologique très facile. D'ailleurs, qui marchait admirablement, puisque depuis qu'on a redéchiffré au XIXe siècle le cunéiforme ou l'écriture hiéroglyphique, nous avons été en mesure de reconstituer ce cadre chronologique et nous avons une précision extraordinaire pour les règnes du IIIe et du II millénaire, quelque chose qui est absolument impossible en Grèce où, avant le VIe siècle, nous n'avons aucune date qui soit certaine. Alors, Hérodote a procédé avec beaucoup de souplesse dans ce cas-là. Il construit son récit sur les règnes des rois barbares. Et vous voyez, c'est assez étonnant parce que la chronologie d'Hérodote est fondée sur les règnes des ennemis des Grecs. Il y a là une ouverture d'esprit tout à fait remarquable. Et donc, on commence par Crésus, les prédécesseurs de Crésus, et on va arriver à Darius et à Xerxès. Et ça nous permet à nous, qui avons d'autres sources de renseignements, de rattacher cette chronologie de façon extrêmement précise.
Oui, c'est des éléments de comparaison fantastiques et de correspondance, pardon.
Tout à fait.
De correspondance.
Tout à fait. Et il avait le même problème pour la Terre. Pour la Terre, en somme, les Grecs avaient deux approches, en quelque sorte. D'une part, il y avait celle des marins. Les Grecs étaient, avec les Phéniciens, les meilleurs marins de cette époque. Ils avaient parcouru tout le tour de la Méditerranée, de la mer Noire. Ils s'étaient probablement déjà risqués sur l'Atlantique. Et il y avait une expérience, mais une expérience orale, une expérience pratique, permettait d'identifier tel cap, de savoir
c'était
combien...
C'était empirique.
Tout à fait empirique. Et puis, d'autre part, il y avait aussi le désir, chez les grands sages, de construire un monde rationnel, alors la rationalité est tout à fait présente dans l'œuvre d'Hérodote, et de partir de figures géométriques. Et on était arrivé à l'image proposée par Hécatée de Milet du disque de la Terre flottant sur l'océan tout autour. Alors là, Hérodote s'en moque en disant que c'est sûrement pas ça. Et là aussi, Hérodote procède avec infiniment de souplesse. Il reprend les trois grandes divisions qui étaient classiques, l'Europe qui va jusqu'à l'Espagne et qui va au nord jusqu'au pôle, l'Asie qui est essentiellement l'Asie mineure et dont on ne connaît pas les limites orientales, et l'Afrique, mais là aussi elle se perd dans les déserts et on ne sait pas jusqu'où elle va. Et à partir de ces trois régions, il s'intéresse en réalité beaucoup plus au peuple que aux formes générales de la Terre, et même s'il a un sens très précis des paysages, ce qui l'intéresse, ce sont les particularités de chacun de ces peuples, et il va donc construire son œuvre en cousant, en quelque sorte, des récits ethnologiques et des récits d'événements à cet ordre chronologique qui lui est donné par la succession des règnes des rois lydiens et des Perses.
Et les récits, il les prend de témoins, de première main, si possible, enfin autant que ce soit possible.
Alors, d'une manière générale, en effet, alors il a eu quelquefois accès à des documents écrits. On s'interroge sur... il existait des livres perses, on s'interroge sur ce qu'il avait connu des livres perses. Mais il a connu, par exemple, une liste des tribus perses, c'est-à-dire des impôts payés par les différents peuples soumis au roi des Perses. Il a connu un certain nombre de documents et il a recouru à des documents. Mais pour lui, l'essentiel, c'est effectivement l'enquête orale, c'est la discussion avec tel ou tel témoin. Alors, il n'a certainement jamais rencontré le grand roi, il n'a probablement pas eu accès aux plus grands dignitaires de l'Empire perse. En Égypte, il a probablement eu accès à des prêtres importants. Et puis, il va se renseigner. Alors, on a dit qu'il s'était renseigné auprès de Drogman, auprès de gens de faible niveau social. Je ne le crois pas. C'était un grand aristocrate. Il voyageait entouré du prestige d'Athènes. Et je pense qu'il devait être reçu...
Dans les plus belles maisons.
Dans les plus grandes maisons.
Oui, oui. Grandes familles.
Oui, oui.
Parce que c'était l'universalité de l'époque, mais entre lettrés.
Alors, lettré peut-être, parce qu'il n'y a probablement pas à ce moment-là de grande communication entre le monde des prêtres et des scribes d'Égypte, de Phénicie. Alors, Hérodote ne semble pas avoir connu Jérusalem ni les Hébreux. Et un aristocrate comme Hérodote, nous ne sommes pas encore au moment où la culture grecque est considérée par les non-grecs comme quelque chose d'extrêmement précieux. Précisément, Hérodote va être de ceux qui vont construire ce résultat. Mais je pense que le prestige d'Athènes est tel que Hérodote devait avoir ses entrées très haut.
Alors, Hérodote et la politique, comment ça se passe? Puisque vous disiez qu'il était indépendant, mais comment a-t-il manipulé ça?
Alors là, il y a une des clés essentielles d'Hérodote. et une des clés qui nous importe encore de nos jours. Je disais tout à l'heure que pour Hérodote, le mot barbare n'est pas un mot péjoratif et ne désigne pas une infériorité de civilisation. Et il est très sensible à certaines qualités, et d'autre part au faste des Perses et d'autres aristocrates. Mais il y a une chose essentielle qui distingue les Grecs et les barbares, et probablement plus encore que la langue, c'est le système politique. Il existe dans des cités grecques une certaine forme de pouvoir monarchique, de pouvoir absolu, mais c'est le pouvoir du tyran. Et pour Hérodote, ce pouvoir tyrannique est toujours à condamner. Il est toujours, je dirais même, monstrueux. Et Hérodote le souligne en mettant en scène des épisodes qui se passent dans des sanctuaires ou en rapport avec les dieux, qui montrent que ces tyrans sont des êtres hors nature. Et le système normal de la cité, c'est le nomos, c'est la loi. Alors, la loi ne signifie pas forcément démocratie. La cité de Sparte, qui est une cité très oligarchique, est quand même une cité régie par la loi, incontestablement. Mais ce nomos fait la force des Grecs. Tandis que les barbares, eux, sont tous soumis à des rois. Alors, ces rois peuvent être des personnages remarquables, peuvent être d'une efficacité et de qualité tout à fait extraordinaires. Mais en soi, ce système monarchique affaiblit en quelque sorte les Perses. Et on le voit à travers plusieurs épisodes. Il y en a un qui est très célèbre. Xerxès interroge un roi de Sparte, un ancien de roi de Sparte qui est expatrié, qui a été chassé, qui était obligé de quitter sa cité. Et en se moquant de lui, il lui dit « Mais comment est-ce que les Grecs qui sont si peu nombreux vont résister à cette armée formidable que tu viens de voir ?» Et Démarate lui dit « Mais ils vont résister parce que ils sont libres, certes, mais leur liberté, c'est d'obéir au nomos. Et le nomos, c'est beaucoup plus que la loi. C'est
une culture profonde.
C'est une culture profonde, c'est une cohésion sociale fondée sur la certitude que l'ordre est juste et que l'on obéit à quelque chose qui correspond à l'ensemble de la société et non pas à une volonté individuelle. Et c'est ce nomos qui va permettre aux Grecs de l'emporter. C'est ce nomos qui va aussi se développer au cours du 5e siècle dans la démocratie athénienne. C'est ce nomos particulièrement intéressant qui non seulement est pratiqué par les Grecs, mais qui va aussi faire l'objet de théories politiques à la fois chez Hérodote et chez les philosophes. Et Hérodote a parfaitement conscience de ce problème. Il le présente de façon tout à fait claire. Lors de la grande crise de succession qui se produit en 522 dans l'Empire perse, à la mort de Cambyse, à l'assassinat de Cambyse, il y a une période trouble et Darius finit par reprendre le pouvoir, d'une manière que nous connaissons un peu par les sources orientales. Et Hérodote nous présente à ce moment-là un grand débat politique sur les trois formes de régime possibles. Il y a soit le pouvoir d'un seul, soit le pouvoir d'un petit nombre, l'oligarchie, soit l'isonomie, c'est-à-dire celui où tout le monde a les mêmes droits dans le nomos. Alors, ce débat est un débat purement grec. Il est absolument sûr qu'il n'a pas pu avoir lieu dans le monde perse à ce moment-là. On est aux antipodes de la culture perse. Mais il est tout à fait intéressant de voir qu'Hérodote place ce débat politique d'un point de vue grec au moment où les Perses sortent de leur plus grande crise politique. C'est vraiment affirmé, même à nous, aux gens du XXIe siècle, que c'est la différence essentielle entre le monde grec et le monde barbare.
Oui, il a vraiment posé des jalons définitifs pour bien faire la césure.
Oui, et c'est ce qui explique que cette œuvre d'Hérodote, quelles étaient les ambitions d'Hérodote au début, nous ne le savons évidemment pas, mais c'est évidemment la raison pour laquelle cette œuvre d'Hérodote s'est transmise jusqu'à nous. Et il faut bien voir que là aussi, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Nous disions tout à l'heure que c'est la première grande œuvre en prose que les Grecs nous ont léguée, qu'ils ont conservée. Et ça nous a été conservé par une série de transmissions tout à fait extraordinaires, la bibliothèque d'Alexandrie, le passage du papyrus au livre, les grands copistes de l'époque byzantine, qui fait que nous ayons encore l'œuvre complète d'Hérodote. Certainement pas sous la forme dans laquelle Hérodote l'avait rédigée, mais sous une forme admirablement conservée.
Oui, et donc la transmission, on vient d'en parler, mais aussi les émules. Est-ce qu'il a eu des émules ?
Alors, il a non seulement laissé une œuvre, mais il a laissé une tradition. Soyons justes, il y a en même temps que lui d'autres historiens que nous n'avons pas conservés.
On a des noms précis.
On a des noms, oui, mais ces noms ne sont, sont connus de quelques érudits et ne sont pas d'un très grand intérêt. C'est Hérodote qui a été conservé parce que c'est lui qui a été recopié, parce que c'est lui, très vraisemblablement, très certainement, que les bibliothécaires d'Alexandrie, que les professeurs de littérature de l'Antiquité ont considéré comme le plus remarquable. Et comme tout ne pouvait pas être conservé, c'est lui qu'ils ont choisi.
Justement, est-ce que c'est parce qu'il avait ce don du conteur que la bibliothèque d'Alexandrie a décidé de parler des 9 livres, des 9 muses? Est-ce que ça donne un peu l'ampleur de l'art de conteur et de poésie d'Hérodote?
Alors, il est probable que la division en 9 livres est un peu due au hasard. C'est-à-dire que le papyrus présente des contraintes considérables. Un papyrus ne peut pas avoir un livre. Vous pouvez imprimer un livre de 50 pages et un livre de 2000 pages. Vous aurez des problèmes de reliure, mais vous y arriverez. Le papyrus, ce sont des morceaux de papyrus collés. Au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus. Et d'autre part, vous maîtrisez beaucoup moins le choix, retrouver les passages. Donc, c'est probablement les contraintes du papyrus qui ont imposé cette division en 9 livres. Hérodote ne l'a pas connu et le nom des 9 muses a été proposé par admiration, par hommage à Hérodote, mais ce n'est pas Hérodote qui l'a choisi. Lui-même, lorsqu'il fait référence à un passage qu'il a déjà, un passage antérieur, il parle de logos, il parle de récit. Mais sous quelle forme est-ce que ça a été transmis, sous quelle forme est-ce que c'est arrivé à la bibliothèque d'Alexandrie, nous n'en avons aucune idée. En revanche, ce que nous savons, c'est qu'il a été très lu de son temps et qu'il a été imité par toute une série de successeurs. Et ceci pourrait faire l'objet d'un deuxième entretien sur l'évolution de l'histoire dans le monde grec.
Bien, alors ça sera pour une prochaine émission Thucydide. Merci Olivier Picard.